Comment cultiver son jardin secret? Comment prendre soin d'un potager? Comment composer un jardin de curé? L'automne est une bonne période pour les plantations et les vacances de la Toussaint sont le moment idéal pour prendre le temps de respirer et de se composer avec sagesse et raison un paysage domestique qui vous ravira au printemps. Vous avez jusqu'au 25 novembre, jour de la Sainte Catherine où tout arbre prend racine pour faire vos plantations et même au-delà s'il ne gèle pas trop fort. Les bienfaits de ces jardins sont innombrables. On va les passer en revue dans La Voie Libre. Et nous parlons de ce très très beau sujet, de ces jardins, comment cultiver son jardin, avec les deux auteurs de Jardin de curé, Jardin d'antan, publié chez Flammarion, Claudie Mangold et Philippe Ferret. Bonjour, merci beaucoup d'être mes invités ce matin pour parler de ce beau sujet. Bonjour Claudie Mangold.
Bonjour.
Vous êtes coach, mais alors coach de vie. Coach de vie, vous voulez mettre en harmonie, associer les plantes, tout d'abord, bien sûr, en fonction de leur texture, leur couleur, leur forme, créer des ambiances végétales dans lesquelles l'être humain retrouverait son harmonie. Comment on fait ça?
Comment on fait ça? Ben, je crois qu'on passe par le ressenti.
Oui.
Il faut que la personne ressente ce qu'elle aime, ce dont elle a besoin pour se sentir en harmonie avec ce qu'elle fait, avec ce qui l'environne.
Oui.
Voilà, ça passe vraiment par le ressenti. Après, il y a le savoir-faire. Mais je crois que le ressenti et les émotions, c'est le plus important.
Mmh. Et un jardin, plus qu'un vêtement, par exemple, ou qu'un univers plus familier, comme un appartement, peut-être la palette sur laquelle on se composerait un
voilà, moi je
un
crois que ça
paysage.
Va te taire. Quand on écoute les messages de son corps, de ses ressentis, je pense que l'appartement ou la maison et le jardin sont à notre image. Mmh. Après, c'est adapté suivant les besoins de la famille ou de la personne. Mmh. Mais on ressent, quand on rentre dans une maison ou quand on rentre dans un jardin, on ressent, s'il est authentique, pas fait par un paysagiste, on ressent la personnalité de celui qui l'a créé.
En fonction des essences que l'on aura choisies, des fleurs qui y poussent et peut-être de son ordonnancement. On va le voir également avec vous, Philippe Ferret. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes jardinier expert, journaliste photographe, auteur de Amis des jardins, Mon jardin, ma maison. Vous éditez, publiez vos photos dans Rustica aussi. Auteur de nombreux ouvrages dans le domaine des plantes et des jardins que l'on retrouvera sur le site internet de La Voie est libre. Est-ce que l'on vous doit les très belles illustrations qui agrémentent ce bel ouvrage?
Oui.
C'est un, je dois le dire, c'est un très beau livre que vous avez composé là comme un beau jardin lui aussi. Jardin de curé, jardin d'antan, donc chez Flammarion.
L'harmonie qu'il y a eu à la création de ce bouquin avec une équipe éditoriale très très efficace et à notre écoute transparaît au fil des pages.
On pourra y trouver beaucoup beaucoup de conseils, de recommandations, de bonnes idées pour se composer donc un jardin d'antan, un jardin de curé, savoir soigner ses bouquets, ses massifs, ses fleurs et ses arbustes, ses bordures aussi auxquelles il faut faire très attention. On va le parcourir tout au long de l'émission. Tout d'abord, je donne vos sites internet, le vôtre Claudie Mangold, www.coach-vie.eu. On y trouve vos conseils, comment vous contacter, etc.
Coachvie.eu, c'est ma profession de coach. Et de vie, ça veut dire que ça concerne tout ce qui concerne l'être humain en dehors du travail en entreprise. C'est-à-dire que je ne vais pas aller travailler en entreprise, mais si quelqu'un a un problème dans son entreprise et qui vient me voir, on peut régler le problème ensemble. Mais je ne vais pas dans les entreprises, c'est ça la différence.
D'accord. Donc www.coach-vie.eu et le vôtre Philippe Ferret, www.plantesetjardins.com.
Voilà, c'est plutôt un blog avec des infos qui tournent.
Et toujours radionotredame.net pour nous écrire, nous laisser toutes vos questions et vos observations, comme Julia d'ailleurs que je salue et que je remercie pour ses messages quasi quotidiens, et puis le 01 56 56 44 00 pour participer à cette émission. Comment cultiver son jardin secret, comment prendre soin d'un potager, comment composer un jardin de curé. Faites-nous part de vos témoignages et de vos bonnes idées à l'antenne au 01 56 56 44 00. Alors tout d'abord, Chers invités, qu'est-ce que c'est qu'un jardin de curé? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle jardin de curé?
Ah, bien, au départ, bien sûr, c'était le jardin du curé.
Voilà.
Il faut comprendre la genèse de ça, c'est en fait, auparavant, le curé de la paroisse était un érudit parmi les érudits du village, et donc c'était la référence. Hein. Et donc son jardin était la référence pour tout le monde. Mmh. Hein. Il avait appris lors de sa formation,
oui.
Il avait appris plein de choses, la puissance des herbes aromatiques officinales pour soigner, et plein de choses de ce genre, et donc c'était la référence. Mmh. Maintenant, la référence, c'est plutôt les jardins publics, les jardins de ville.
C'est ça,
hein, donc, c'est pas la même chose.
On n'y met pas les mêmes moyens non plus, parce qu'il faut dire que si le curé est un homme public... Il le demeure encore aujourd'hui, son jardin pouvait être considéré, vous le dites, comme sa thébaïde, son lieu de retraite aussi.
De ressourcement, oui.
De ressourcement. Oui, oui. Et à la fois le lieu de sa subsistance, puisque,
voilà.
Après le concordat, une fois le concordat rompu, eh bien, il faut bien assurer ses fins de mois, assumer les difficultés, et puis vous le dites aussi avec beaucoup de poésie, le curé pouvait donc y assurer sa subsistance, améliorer son ordinaire frugal, cultiver ou faire cultiver fruits et légumes, nourriture terrestre du corps, mais aussi les fleurs destinées à décorer l'église et son autel.
Bien sûr. Mmh. Oui. Et c'est ce mélange de fleurs de plantes utilitaires,
oui, oui,
de plantes vivrières et de fleurs qui fait le charme aussi de ces jardins.
Pour qu'on parle de cet aspect utilitaire du jardin de curé, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce que sont justement ces plantes médicinales ou officinales? Quelle différence?
Alors oui, médicinal, officinal, c'est presque synonyme en
oui.
fait. Hein. Il y a les plantes officinales et médicinales donc, qui sont là pour soigner. Il y a également les plantes condimentaires. Et puis après, il y a toute la litanie des plantes qui se mangent. Hein, les fruits, les légumes,
etc. Voilà, ouais. Les racines aussi. Les plantes condimentaires, c'est ce qui ressemble à la menthe.
Voilà, c'est la menthe, la menthe coque.
C'est ce qui agrémente.
Voilà, tout à fait.
Et elle porte des noms magnifiques, herbe de Sainte-Marie, herbe de Saint-Pierre, menthe Notre-Dame. Les références religieuses y sont nombreuses. Puisqu'on est dans les références religieuses, je disais au début de l'émission que les auditeurs avaient jusqu'au 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, où tout arbre prend racine pour faire leur plantation. Est-ce que c'est vrai?
Alors, il y a depuis pas mal de temps, avec l'apparition de la culture intensive en conteneur, on peut planter pratiquement toute l'année.
Oui. Voilà.
Mais si vous voulez constituer un jardin d'une façon très économique,
oui,
c'est-à-dire en utilisant je parle de ligneux, hein, surtout des arbres, des arbustes,
oui,
si vous voulez
oui.
les planter en racines nues, ce qui coûte vraiment pas cher du tout,
hein, oui,
y compris les fruitiers, eh bien, c'est justement à l'automne qu'il faut le faire.
Parce que
à ce moment-là, les plantes vont s'installer, vont faire des racines tout l'hiver, tranquillement, et pousser comme il faut au printemps. Elles ont eu le temps de s'installer tranquillement.
Mais ça, c'est tout un art. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en dise un mot tout de suite. Comment est-ce qu'on réalise cette plantation-là? Il faut songer à la profondeur du trou, à la façon dont on l'arrose au début, lui mettre peut-être un peu d'engrais.
Oui, alors on peut parler de la plantation des arbres ou des arbustes en général, plus généralement.
Oui.
Alors, il faut savoir aussi, un bon jardinier, il va être un fin observateur, donc il va bien connaître son sol.
Oui.
C'est-à-dire que dans certains bouquins, vous allez lire, faites vos trous de plantation au moins un mois à l'avance. Alors moi, je mettrais un petit bémol, parce que si vous êtes dans une terre argileuse, vous allez être amené à planter parfois dans une baignoire, parce que s'il a plu... La terre étant argileuse,
oui,
voilà.
Oui.
Bon, c'est pas forcément. Donc, il faut moduler les conseils qui vous sont donnés parfois d'une façon plus générale. Et vous pouvez très bien faire le trou le jour même. C'est pas du tout un problème.
En songeant à faire un drain en y mettant des cailloux au fond.
Alors voilà, ça dépend aussi du sol. Si votre terre est poreuse, vous n'avez pas besoin de mettre de drain. Si la terre est très argileuse. Alors, on peut faire un drain, mais le drain, il sert pas forcément à grand chose s'il n'est pas évacué quelque part. En revanche, vous allez plutôt avoir tendance à planter sur une légère butte, ce qui va assurer un bon drainage au niveau du collet de la plante, qui est plus important presque que de mettre du gravillon.
Ensuite, on referme, on recouvre, on y met du fumier,
voilà.
Quelque chose de
l'assemblant. Avant, moi, je conseille plutôt dans le trou, au fond du trou, de mélanger de la corne torréfiée, qui est un engrais naturel, mais ouais. à décomposition très lente.
La nature occupe une part importante dans cet ouvrage. Enfin, tout ce qui est naturel et méthode, bien entendu, à la fois de composition du jardin, mais aussi de favoriser sa croissance par des méthodes naturelles. Le jardin de curé est-il à la mode pour une forme de retour à la nature qu'on observerait aujourd'hui? Est-ce que vous avez observé ça?
Alors tout à fait, parce que nos conditions de vie actuelles font que on est amené à vouloir se ressourcer, à être de plus en plus naturel, plus authentique, manger sain. Et donc toutes ces valeurs que portaient les jardins de curé, ma foi, sont encore d'actualité. Mmh. Alors avec peut-être, bien sûr, une notion d'être un peu moderne, c'est-à-dire qu'on ne voit plus l'agriculture maintenant comme on la voyait jadis.
Oui.
L'agriculture, du moins le jardinage.
Oui.
Donc, d'un côté, on a le retour en force des remèdes de grand-mère, mais il faut bien quand même être conscient que jadis, on utilisait énormément de pesticides, sans trop savoir, même en doublant les doses, en se disant ça sera plus efficace, ce qui est complètement à proscrire. Alors que maintenant, il y a quand même un grand courant de jardiniers qui veulent justement avoir des produits sains et entre guillemets biologiques, quoi.
Et s'il s'agit de faire pousser des fruits, des légumes, on n'a pas peur de la perte, puisqu'il s'agit vraiment d'une...
C'est une optique complètement différente. Ouais. On va d'ailleurs peut-être choisir des variétés locales qui, elles, ne trouvent pas sur les marchés.
Qui sont pas forcément très productives.
Oui, ou qui se transportent mal.
Oui.
Donc, on va en profiter pour retrouver des saveurs totalement différentes. Et donc, c'est une autre façon de voir les choses et qui est très, très à la mode. Il y a un retour vers les choses.
Vous parlez même à la fin de l'ouvrage des légumes oubliés qui marquent
tout à
leur
fait,
grand retour.
Oubliés, oui, maintenant. Retrouver, je dirais.
Si j'en citais quelques-uns, quand même, la roche belle dame, l'épinard fraise, la barbe de capucin.
Oui,
on
ne
peut pas dire qu'ils soient très fréquents sur les étals des marchés.
Nos grands-pères, nos grands-mères qui sauraient de quoi l'on parle. Mais, mais justement, il y a tout un savoir que l'on croyait perdu, mais qui mérite d'être retrouvé, remis au goût du jour. Et d'ailleurs, les grands restaurateurs ne manquent pas de faire appel à ces plantes oubliées pour avoir proposer une cuisine totalement nouvelle.
Claudie Mongeau, je vous en prie, n'hésitez pas à nous couper la parole. Cette ambiance végétale, est-ce qu'elle contribue au bien-être? Alors, qu'est-ce qui nous fait du bien lorsque l'on décide de se composer un jardin? Est-ce que c'est le fait d'être le dos courbé, les deux mains dans la terre, de composer quelque chose de ses mains, justement? Ou est-ce qu'elle a la valorisation?
Alors, pour moi, le jardinier a les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Mmh. Et c'est une parabole aussi de l'évolution de l'être humain dans l'univers. Et donc, effectivement, il a les pieds et les mains dans la terre. Mais quelque part, il regarde beaucoup le ciel parce qu'il est obligé de faire avec le temps, de faire avec le soleil, de faire avec les pluies. Enfin, donc, il est obligé de respecter tous ces éléments naturels qu'on oublie de plus en plus. Et là, ça fait du bien. Bon. Alors, il y a le travail du jardinier en lui-même, mais après, il y a aussi le côté créatif qui lui fait appel à la partie plus ciel, on va dire, du jardinier. Et cette partie créative, ça équilibre beaucoup le travail de la terre. Et cette partie créative, elle rentre justement dans la composition des massifs. Même dans les compositions de potagers, on peut faire des choses très décoratives dans les potagers. Mais cette créativité équilibre l'être humain qui a les pieds bien ancrés sur la terre et qui gréent grâce à son inspiration.
Une créativité qui peut même se permettre d'être assez baroque, puisque ce qui fait la caractéristique d'un jardin de curé, d'un jardin d'antan, c'est son côté foisonnant et un peu désordonné. D'ailleurs, on le constate en voyant les images de votre ouvrage, Jardin de curé, jardin d'antan, chez Flammarion, donc, puisque c'est... ça explose de couleurs, ça explose de formes, d'arbres et de plantes de toutes sortes qui cohabitent de manière assez anarchique, il faut le dire.
Anarchique, je suis anarchique, pas non, tout justement. À fait d'accord sur le mot. disons que c'est planté au gré des partages, notamment. Donc il est vrai que c'est pas ordonné, prévu à l'avance, mais quand même il y a une recherche. On n'associe pas telle plante avec n'importe laquelle. Il y a quand même une recherche dans les mariages de plantes.
En fonction de quoi? En fonction de leur parfum, en fonction de leur couleur, en fonction de leur vertu?
Il peut y avoir par exemple des massifs de plantes aromatiques ou médicinales.
Oui.
Ça c'est une chose. Ou elles peuvent être mises en bordure.
Oui.
Mais pour le reste, il y a des plantes incontournables, comme le lys de la Madone,
oui.
Des choses comme ça. Et vu leur stature, il est de bon ton de les marier avec d'autres plantes qui prendront peut-être moins le pas.
C'est ça.
Voilà. Il y a un dialogue entre les plantes et il ne faut pas qu'une plante écrase l'autre. Voilà, il y a un respect.
Est-ce que l'on peut dire, Philippe Ferret, que le jardin d'antan, le jardin de curé, ressemble au jardin à l'anglaise?
Non, pas du tout.
Ah.
Pas du tout. Justement, j'allais y venir. On a dans le jardin de curé, le jardin d'antan, cette profusion, c'est ce côté fouillis, organisé, mais qui est cadré, qui est toujours cadré, la plupart du temps, par
des
bordures.
Oui.
Il y a un plan souvent en croix.
C'est ça, hein, d'accord.
En croix, c'est très symbolique. Hein. Et puis, il y a des petites contre-allées qui tournent autour du terrain le plus souvent. Hein. Donc, il y a le mélange de la rigueur et de ce foisonnement de vie à l'intérieur des carrés qui ont été bien délimités.
Alors, comment on peut les composer?
Alors qu'à l'anglaise, on a des courbes, on a des formes plus courbes. On a plutôt des masses de plantes juxtaposées, d'une même plante, mais en grande quantité.
Et on peut avoir du gazon partout,
voilà,
sans aller.
Voilà, parce que là, le gazon, dans un jardin de curé, a priori, enfin, à l'ancienne, il n'avait pas lieu d'être. C'était inutile, le gazon. Chaque centimètre carré a été utilisé maximum. Hein.
Ouais.
La terre était précieuse.
Ouais. Et alors, ces bordures, comment est-ce qu'on les dessine? Comment est-ce qu'on les compose? Est-ce qu'il faut respecter une harmonie?
Là, ça dépend des régions beaucoup. Hein. Alors la région, le climat va proposer plutôt des buis dans le nord. Plutôt, ça peut être de la lavande, de la santoline dans le sud. Ça peut être là, c'est plus une question de terrain, de climat qui va dicter quel type de bordure on va faire.
Étant donné qu'on vit au rythme des saisons, on vit aussi selon la terre que l'on a sous les pieds. Alors, ce qui fleurit aussi dans les jardins d'antan, mais qui ne se mange pas, n'est pas parfumé, ce sont tous ces objets un peu insolites que l'on trouve à profusion dans les brocantes, sans quelquefois trop savoir à quoi ils servent, ni dans quel décor ils pouvaient s'inscrire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces objets vraiment étonnants que l'on voit d'ailleurs dans la plupart des illustrations de votre ouvrage?
Alors là, oui, il y a disons-le, la mode déco qui est un peu... c'est un peu étalé au fil des pages, parce que notre jardin sert de studio aussi. Et bon, il y a pas mal de photos qui ont été prises dans notre jardin, qui s'appelle le jardin de l'Angélus d'ailleurs, puisque nous sommes à côté d'une église qui sonne tous les jours l'Angélus.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté, dans les jardins de curé, il y avait, au bout d'une allée, on trouvait une vieille colonne à l'abandon, on trouvait des fers forgés, on trouvait plein de choses, des croix, des statues de la Vierge, voilà. Il y a tout un décor.
On peut cacher un bas-relief derrière, comme je le vois là. Un bas-relief mis en valeur par un rosier de Chine délicat.
Tout à fait.
Ça, c'est un petit boulot de cimenterie à faire, mais enfin, c'est toujours très joli. De même pour cette croix en métal qui trône sur une forme de...
À la croisée des chemins.
Exactement, à la croisée des chemins. Et puis alors, il y a tout le mobilier qui sert à s'asseoir, à boire un petit
verre
sous une tonnelle et à l'abri et les statues, bien sûr.
Il y a cette notion de jardin à vivre. Hein.
Oui.
On en est revenu du jardin à montrer. Hein.
Oui, oui.
Là, franchement, on va prendre le temps de maintenant, on n'est plus dans le jardinage besogneux. On va se préserver des plages de calme, d'apprécier son travail.
Bien sûr.
Quand on a jardiné toute la journée, qu'on s'assied sur le banc et qu'on regarde ce qu'on a fait, bah, y a une petite fierté, il y a une certaine complétude à apprécier ce travail. Bon, c'est des bonheurs simples, mais maintenant on tend vers ça, et c'est très bien.
Il faut dire d'ailleurs, pardon Claudie Manlon, mais que ces jardins, souvent, sont abrités derrière les murs d'une maison. On y passe sa journée, mais il est à la fois, et là vous pourrez réagir là-dessus, c'est le mariage d'émotions, mais aussi de souvenirs que l'on se recrée.
Absolument.
Par définition, les souvenirs nous sont personnels et on va retrouver dans le parfum d'une plante ou dans sa forme quelque chose qui évoque quelque chose d'une vie passée.
Ou un objet, ou en passant, en frôlant une feuille, un bruit. Mmh. Tous les sens sont en éveil dans un jardin de curé. Ouais. Et je crois que le jardin de curé, entre rigueur et désinvolture, moi j'ose de ce mot, eh bien on est entre l'être et le faire. Mmh. Et c'est ça qui permet de trouver un équilibre, une harmonie de l'être humain dans son jardin. Parce qu'on est incité à travailler au jardin, mais en même temps, on est incité à apprécier, se reposer et être. Mmh. Voilà.
C'est aussi une leçon d'humilité. Quitte à être quelque chose, on peut devenir cet être simple qui constate qu'il y a des boutures qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, que la météo est clémente ou qu'elle est plus rigoureuse, de respect aussi, de patience et de travail. Parce que ça, c'est votre quotidien, Philippe Ferret. Quel travail ça demande de composer un jardin?
Alors en fait, ça demande du travail, bien sûr, un investissement, mais... C'est pas un travail, c'est un plaisir.
C'est un plaisir.
Voilà, on transmute. C'est un plaisir, puis c'est un épanouissement. C'est retrouver des choses simples. C'est s'émerveiller d'un petit rouge-gorge qui va venir à côté de vous sur votre fer de bêche. C'est profiter de l'instant présent. Alors, jadis, c'était très besogneux, je le répète, maintenant. Il y a des techniques qui permettent vraiment de s'affranchir de beaucoup de tâches vraiment fastidieuses. Comme auparavant, on vous disait, vous prenez un terrain, il faut le bêcher à deux fers de bêche. Je peux vous dire que si vous l'avez déjà fait, vos lombaires s'en souviennent. Maintenant, non, on préconise un respect total des couches, des strates de terre.
Oui.
Et donc, on ne va pas bousculer la terre.
Parce que chacune a ses sels minéraux.
Là, voilà, donc déjà, on n'a pas à retourner la terre. Ensuite, si on la respecte, si on ne la tasse pas, si on utilise des paillis, qui sont en fait des récupérations, on recycle, c'est un microcosme, eh bien, on va s'affranchir de beaucoup arroser, de désherber. Pourquoi? Parce que ce paillis, il va empêcher les mauvaises herbes de pousser, il va retenir la fraîcheur. Donc, on a pas mal d'astuces qui permettent justement de passer moins de temps au travail et plus de temps à profiter de son jardin.
Ces jardins de curé évoquent une sagesse populaire aussi, ancienne, proche de la nature. On revient encore une fois à des racines chrétiennes profondément enfouies, comme le sont les arbustes que l'on plante en cette saison. Un temps où la vie était réglée par la ronde des saisons, caprice du temps dont on parlait, et le calendrier des saints. On pourrait peut-être en citer quelques-uns, les plus redoutés étant les saints de glace. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi?
C'est une période très charnière pour le jardinier.
Oui.
Parce que ces fameux saints de glace qui arrivent dans la première quinzaine de mai, bon, c'est une date variable.
Oui.
Mais ces saints, d'ailleurs, il y en a, c'est plus complexe que ça, il y en a plus de trois. Ces saints, ils ouvrent la porte justement aux plantations, aux dernières plantations.
Oui, hein, c'est ça.
Aux plantations des plantes qui sont les plus fragiles, comme les tomates, les poivrons,
oui,
les piments.
Oui, hein. Oui.
Donc là, il y a le jardinier qui a préparé ses plants en amont, mais qui les a bien couvés, qui les a bien chouchoutés. Et là, il va pouvoir les mettre à l'air libre. Et là, on respire. Parce que d'une part, c'est beaucoup de travail.
Oui.
Mais là, on se dit, ça y est, j'ai moins de crainte vis-à-vis de la météo.
Mais la ronde des saisons étant moins marquée aujourd'hui, il faut quand même aiguiser son sens de l'observation pour
Tout
ne
à
pas
fait.
Commettre d'impair. Je vais citer le nom de ces trois saints de glace et du quatrième. C'est les saints Servet, Pancras et Saint-Mamère. Et le quatrième serait Urbain. Voilà, les cavaliers du froid. Jack Frost, selon la légende des anglaises, anglo-saxonne. Voilà. Et puis, c'est drôle, vous nous l'apprenez, la floraison. Les jardiniers attendent la floraison des lilas pour planter sans risque pommes de terre et dahlias.
Voilà, ouais.
Alors,
c'est ce qu'on appelle des repères phénologiques en fonction de certaines plantes qui sont quand même assez rigoureuses par rapport aux aléas de la météo.
Comment composer un jardin de curé? Comment prendre soin de son potager et cultiver son jardin secret? On continue à en parler dans une poignée de secondes. 01 56 56 44 00 pour participer à cette émission. À tout de suite.
La voie est libre. 01 56 56 44 00. Pour nous écouter, pour nous réécouter, rendez-vous sur le www.radionotredame.com.
Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.
À l'œil du prince, Christophe Maury.
Comme vous l'entendez, l'œil du prince tient son nouveau générique pour toujours plus d'enthousiasme pour remettre du théâtre dans la vie. Mais l'enthousiasme que nous vous transmettrons, mon invité et moi, ne sera pas sans vous. À bientôt, le carnet de bal se remplit dès aujourd'hui pour le rendez-vous hebdomadaire sur 100.7 toujours, Radio Notre-Dame.
À l'œil du prince avec Christophe Maury, tous les vendredis à 11h30 et 19h30 sur Radio Notre-Dame.
Or ou métaux précieux, vous possédez peut-être des bijoux, montres, diamants dont vous souhaitez vous séparer.
À Paris, dans le 6e arrondissement, Boursorama achète en toute discrétion vos valeurs. Lingots, pièces cotées, diamants, platines, bijoux, montres, débris, ainsi que l'argent sous toutes ses formes.
Règlement immédiat, après estimation, expertise gratuite.
Boursorama, 125 rue de Sèvres, 01 43 06 16 21. 43 06 16 21.
Boursorama,
nous donnons un prix à vos valeurs.
L'éditorial de Gérard Leclerc.
L'actualité vous exaspère, vous émerveille. Chaque matin, l'œil de Gérard Leclerc relève ce qui doit être dit. L'éditorial de Gérard Leclerc, c'est du lundi au jeudi, à 7h03, 8h03 et 19h58.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Vous avez envie de nous soutenir financièrement parce que vous estimez que les programmes de Radio Notre-Dame sont utiles pour comprendre le monde et défendre la pluralité des médias. N'oubliez pas que l'État vous encourage et vous permet de défalquer 66% de votre don. Ainsi, un don de 150 euros vous revient après impôt à 50 euros et un don de 60 euros vous coûte réellement 20 euros. Alors n'hésitez pas à envoyer vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e et sur notre site internet bien sûr.
La voie est libre, Alexandre Meyer.
Avec une table et une chaise de jardin.
Jacques Dutronc, pour parler de ce sujet magnifique, on aurait pu en citer d'autres, hein, Je ne suis qu'un pauvre jardinier, c'était Yves Montand qui chantait ça, je crois. Philippe Ferret, Claudie Mangold, pour aborder ce très très beau sujet à l'occasion de la sortie de votre ouvrage « Jardin de curé, jardin d'antan » chez Flammarion. Je redonne votre blog, Philippe Ferret, horticulture.com, horticulture.com. Des conseils, des idées pour réaliser son jardin et puis voilà, plein de très très belles idées et le vôtre Claudie Mangold, www.coach-vie.eu. Avant de donner encore des conseils à nos auditeurs pour se composer un jardin de curé, y compris en ville, suspense, vous nous direz si c'est possible sur un balcon à la condition qu'il soit très grand, en attendant, une belle terrasse quand on a la chance d'en avoir une, mais en attendant on va écouter Annie qui nous appelle de Clichy. Bonjour Annie.
Allô, bonjour.
C'est à vous, bonjour Annie.
Merci pour ce bain de fraîcheur avec cette émission. Moi, je voulais demander un conseil très pratique. Je cultive un petit peu de jardin, pas à Clichy, mais en vallée de la Loire. Et je voulais savoir quelle était la période la plus propice pour bouturer de la lavande et puis pour repiquer des fraisiers.
Bouturer lavande, repiquer les fraisiers. Quel est le magnifique animal qu'on entend derrière vous?
Une tourterelle.
Une tourterelle, bah, c'est très beau.
C'est charmant.
Merci beaucoup Annie, ça c'est rafraîchissant. Alors comment bouturer?
Alors Annie, vous cultivez votre jardin à la campagne?
Oui.
En province?
Oui.
Vous me posez une question sur donc les fraisiers et...
Les lavandes.
Et les lavandes. Alors la lavande... idéalement, vous allez pouvoir la bouturer. Ça dépend un petit peu de ce que vous avez comme possibilité de pouponnière, de petite pépinière. Moi, je vous conseillerais de retailler votre lavande dès qu'elle a fini de fleurir, hein, d'attendre un tout petit peu. Il faut toujours le faire après la floraison, hein, sinon d'accord, les touffes vont s'avachir avec le temps et elles ne resteront pas compactes. Et puis, vous allez attendre que que des petites pousses réapparaissent, des jeunes pousses réapparaissent après cette taille et vous allez les bouturer à l'automne.
Voilà.
D'accord.
Vous tirez ça dans un mélange de terre de jardin mélangé avec moitié de sable de rivière et à mon avis ça devrait pas poser de problème. Vous avez
d'accord,
une autre solution.
Que les jeunes boutures repoussent.
Les jeunes repoussent, oui, les jeunes repoussent de printemps, d'été. Mais d'accord, vous pouvez également le faire. À ce moment-là, vous le ferez plus à l'étouffer. Vous pouvez le faire aussi au printemps. Alors là, il faut essayer de prendre des jeunes pousses latérales, hein, des jeunes pousses latérales avec vous arrachez presque la bouture, hein, avec un petit talon.
Ah oui, d'accord.
Et alors là, vous allez mettre dans un pot, toujours le même mélange. Et puis, vous allez mettre un petit capuchon de plastique dessus, une poche plastique pour que ça soit à l'étouffer.
Et voilà, chère Annie. D'accord. Merci beaucoup pour votre appel.
Et les fraisiers.
Ah oui, fraisiers, pardon.
Alors, soit vous les plantez, alors c'est le plus économique, à l'automne en racines nues.
Hein, voilà.
Soit vous allez acheter des plants, ce qu'on appelle des plants frigo, c'est-à-dire ce sont des plants que l'on a placés en chambre froide l'hiver pour qu'ils puissent vous donner des fruits dès la première année. Ça, vous les planterez en fin d'hiver, début de printemps.
D'accord.
Et vous aurez des fruits, même dans ce cas-là, dès la première année.
D'accord, merci beaucoup. Et si on pouvait me redonner les seins de glace, ça serait bien.
Alors, je vais vous les citer, je vais les rechercher. En attendant, ça y est, je les ai. Cervet, pancras et mammaire. Cervet, pancras et mammaire et rajouter urbain pour le quatrième.
En général, attendez la mi-mai, tout simplement pour faire vos plantations de plantes fragiles à l'extérieur.
D'accord.
Et voilà, chère Annie, merci beaucoup pour votre appel.
De rien.
Merci. Et à très bientôt.
Bonne journée,
à vous.
Au revoir.
Si les jardins de curé, les jardins d'antan sont une recherche esthétique, ils sont aussi une forme d'humanisme. Pour le partage, pour le dialogue qu'ils peuvent susciter, même s'ils sont un jardin secret, ça n'empêche pas de, comme vous êtes en train de le faire d'ailleurs à cette antenne, de divulguer quelques petits secrets à son voisin, curieux.
Ah, et puis partager des graines,
ouais.
Ou des fois même partager des tâches. Il y a des gens qui préparent les chrysanthèmes pour l'automne,
oui.
Qui en font un peu plus pour leurs voisins.
Oui, oui.
Voilà, donc c'est aussi économie de tâches, quoi. Il n'y a pas que le partage des graines.
Ça n'est pas seulement qu'une question d'économie, mais presque d'autarcie, cette idée de jardin d'antan.
Tout à fait. Ils étaient prévus à l'origine pour être source de légumes, de fruits, de bonnes herbes pour la vie quotidienne. Donc, ma foi, il y avait ce côté fouillis d'un côté, mais il y avait aussi toute une partie où il y avait des grandes lignes de pommes de terre, de poireaux et tout ça, pour assurer des récoltes le plus longtemps possible. Hein. Et à cette époque aussi, on tenait beaucoup compte de ce qu'on appelle des légumes de garde que l'on conservait dans des silos et tout ça,
ouais.
Ce qui s'est un peu oublié.
Et ça revient ?
Ça revient tout à fait, oui, pour les citadins en mal de se remettre à ces vieilles techniques qui permettent justement de conserver naturellement les fruits et légumes.
Et puisque vous parlez des citadins, alors est-il possible de réaliser un jardin d'antan en ville ?
Ah, il n'y a pas de problème du moment qu'on a suffisamment de surface pour retrouver cet esprit, cette âme. Oui, non, mais il y a le lieu, on peut faire un jardin de curé. priori partout.
On peut se faire un petit labyrinthe avec des jardinières.
Mais il y a aussi tout ce qu'on, tout ce que l'on fantasme dans sa tête. Dans sa tête, on peut décider qu'un coin de jardin, un tout petit coin de jardin, va être notre jardin de curé. Il suffit qu'il y ait 4 ou 5 plantes qui nous plaisent et qui nous ramène dans cet esprit-là, bon, il n'y a pas de problème.
Après, c'est l'imagination. N'importe quel jardin, du moment qu'on s'y installe avec un bon bouquin de théologie, et s'il nous paraît assez...
Voilà,
avec
oui,
l'écriture de la Vierge pour méditer, bien sûr, et une belle croix en fer forgé.
J'aimerais dire aussi, c'est que, justement, ce sont des lieux de mémoire. Hein,
oui.
Parce que... Remettons-nous dans cette ambiance de jardin, de vrai jardin de curé. Quand les gens allaient se balader dans la campagne, ils trouvaient une prime verte, par exemple, sur un fossé qui était à fleur double au lieu d'être à fleur simple, ils la ramenaient, ils les multipliaient, c'était un petit trésor. Et ça se retrouvait dans le jardin de curé. Et ça se passait de génération en génération. Donc il y a des plantes qui étaient très particulières et qui ont été sauvegardées justement par ces jardins de grand-mère, ces jardins de curé, au fil des temps. Mmh. Et puis il y a cette notion de partage, oui, où cette plante-là, elle me rappelle la grand-mère machin, celle-ci, c'est la voisine qui me l'a donnée. Donc chaque plante a plus que cette dimension végétale, elle a une dimension humaine qui est très importante.
Vous donnez plein de petits conseils pour planter, par exemple, dans un mur de pierre desséchée. Enfin, on peut faire avec ce que l'on a sous la main, finalement.
Tout à fait.
Des treillis, des bordures, des massifs, les allées de charme. À partir de ce tracé simple et fonctionnel dont vous donnez quelques idées. Ensuite, qu'est-ce que l'on y fait pousser ? On va parler un petit peu des plantes. Quel est la reine du jardin de curé ? Est-ce que c'est la fleur ? Est-ce que c'est l'arbre fruitier ? Est-ce que c'est la plante
médicinale ? Ça va dépendre du jardinier et de ses aspirations. Hein. Si on est gourmand, on va plutôt aller vers les fruitiers. Et si on est plus créatif, plus inspiré, on va peut-être chercher plus vers les roses anciennes, vers les fleurs, mais il n'y a pas qu'un type de jardin de curé. Chacun peut trouver son propre jardin curé à travers.
En règle générale, quand même, on y retrouve du buis.
Oui, forcément.
Ça, c'est la plante reine, quoi.
Et les arbres fruitiers dont vous parliez peuvent être aussi l'occasion d'une virtuosité des formes, puisque on peut les faire pousser en espalier, ça s'appelle.
Alors il y a plein de formes fruitières c'est un savoir-faire qui se perd énormément. D'ailleurs, j'ai une photo dans le bouquin qui a été prise dans le jardin primé par l'association des journalistes de l'horticulture cette année,
oui,
qui est un jardin à Villefranche-sur-Saône,
oui, oui,
où il y a un conservatoire, un labyrinthe qui a été fait pour conserver toutes ces formes, et Dieu sait ce qu'elles sont artistement menées.
Oui.
Il faut dire aussi que fut un temps, il y avait pas mal de curés et de gens d'église qui s'étaient spécialisés dans une partie de l'horticulture. Alors certains c'était les légumes, d'autres c'était les formes fruitières. Et on retrouve des sélections la poire bon chrétien, entre autres. Il y a eu des curés, des gens d'église qui se sont passionnés, qui ont été référents au niveau des fruitiers, par exemple.
Et cette esthétique-là avait malgré tout des vertus très culinaires, puisque ça permettait aux fruits d'être bien exposés de chaque côté par le soleil.
Et c'était toujours ce qui a d'ailleurs son pendant actuellement, c'est utiliser au maximum la surface.
Oui,
hein,
oui.
C'est-à-dire qu'on cultivait à la verticale, hein, en espalier contre les murs ou en contre-espalier contre une allée.
À plat, donc.
À plat, donc. Oui, et les tailles étaient justement maîtrisées pour obtenir le maximum de fruits sur un minimum de charpente, si on peut dire. Hein. Et également, cette taille, et c'est pas toujours su, elle permettait aussi de limiter l'alternance naturelle de certaines plantes. Hein. C'est-à-dire que en contrôlant la production, on faisait que tous les ans on avait à peu près, sauf gelé, hein, on avait à peu près toujours la même production. Sinon, un arbre laissé à lui-même, parfois il y a des années où il va se reposer.
La rose occupe une part importante dans votre ouvrage. Quelques pages lui sont consacrées avec des photos magnifiques. Est-ce que c'est elle aussi la petite reine de ces jardins, Claudie Mangold?
Et oui. Moi, j'ai un souvenir d'enfance très particulier. Au moment de la Sainte-Marie,
oui.
Être allée de jardin en jardin, récupérer des roses, et avec une corbeille qui m'avait été mise autour du cou, je jetais sur les passants les pétales de roses, à la fois parfumées, jolies. Principalement, ils étaient choisis blancs. Voilà, il y avait ce symbole de la rose qui était vraiment très, oui. très important.
Vous, à propos de symboles, les fleurs rondes, comme la rose, symboliseraient les femmes, les fleurs pointues, les hommes.
Oui.
Donc à faire cohabiter juste mesure dans un jardin.
C'est un dialogue dans un jardin. Mmh. On marie donc les fleurs pointues creuses ou pleines ou
oui.
plates.
Oui.
Par exemple, une fleur pleine, ronde, les roses.
Oui.
Une fleur plate, le coquelicot ou
oui.
le pavot.
Mmh.
Aussi la marguerite, mais celle-ci est rayonnante, c'est encore autre chose.
Oui.
Et une fleur creuse, par exemple, le lys.
D'accord.
Ça, tout ça, ce sont des fleurs rondes, mais qui ont déjà des formes différentes et qui peuvent déjà dialoguer entre elles.
Ça, voilà. C'est la science de la bouquetière qui transparaît à travers ces créations de massifs.
La bouquetière, un des chapitres de l'ouvrage s'intitule « Ah, les bouquets de grand-mère ». Dans la profusion des massifs, il était facile de glaner des brassées de fleurs et en organisant bien la succession des floraisons, de pouvoir composer des bouquets pendant une bonne partie de l'année. C'est-à-dire pendant combien de mois est-ce qu'on peut réaliser
des bouquets ? On peut
faire
des bouquets tout au long de l'année.
Tout au long de l'année ?
Parce qu'on peut faire des bouquets de feuillage magnifiques.
Oui.
Et moi, personnellement, j'adore les bouquets de feuillage parce que c'est leur donner leur juste place.
Oui.
On pense que les feuillages, on les laisse à côté, on les jette. Mais quand on a des feuillages différents,
oui.
parce qu'ils sont tous différents,
oui.
c'est comme les fleurs,
oui.
mais on n'a pas prêté
en
le regard.
En forme, en couleur, oui.
Et on peut faire des bouquets de feuillage somptueux avec quelques fruits ou quelques baies.
Feuillages qu'on jetait d'ailleurs sur la table de la salle à manger au Moyen-Âge. Pour là aussi égayer une nappe, égayer
voilà.
une table.
Les jonchers.
Ouais, c'est ça, les jonchers.
Oui, oui,
ouais.
oui, oui, oui.
Et puis il y a les odeurs aussi qui sont toujours
la profusion. C'est à la recherche d'un jardin sensuel. Hein. Mmh. Les parfums, c'est profiter des moindres beautés de la vie. Quoi.
De la vie.
Vous en donnez beaucoup des exemples, les trompettes de Narcisse, les tulipes frangées, les sublimes fleurs de lys, bien sûr, les doroniques du Caucase, les œillets de poète, pour se composer ces bouquets à l'ancienne. Est-ce que ce sont des bouquets de grand-mère? Pourquoi? Parce qu'ils ont cet aspect déjà pastel, des couleurs un petit peu qui nous semblent fanées.
Ces bouquets de grand-mère en opposition à des bouquets très structurés, très ordonnancés. Là, c'est plutôt des bouquets qui sont faits avec le cœur, avec ce que l'on trouve sur place. En évitant peut-être d'avoir des couleurs trop criardes, mais il y a une harmonie qui se fait naturellement. C'est plus bon enfant, on va dire, moins sophistiqué.
Vous préconisez de sécher les fleurs pour l'hiver. Comment fait-on?
Tout à fait. Il y avait une tradition de cultiver, d'ailleurs. Moi, je me souviens, le livre, on l'a voulu un carnet d'émotions aussi, hein, parce que c'est ça qui est intéressant. Partager nos émotions. Je me souviens encore aller à l'épicerie du petit village,
oui.
et puis sur le comptoir, il y avait le bar à côté, sur le comptoir, il y avait un présentoir avec des sachets de graines.
Oui,
hein, donc ça faisait partie du quotidien.
Oui.
Et
ça coûtait rien.
Tout à fait, enfin presque rien. Pour une poignée de graines, on a.
Oui.
Et donc là, on cultivait des fleurs à couper. Et parmi ces fleurs coupées, il y avait les immortelles, il y avait plein de fleurs, les delphiniums qui se séchaient. Et c'était tout un savoir-faire qui s'est peut-être un peu perdu, mais qui ne demande qu'à être.
Vous le dites, le moindre espace vacant était ensemencé dès le printemps en vue de cueillettes généreuses de bouquets multicolores. Et nos grands-mères affectionnaient les fleurs bannies des cultures agricoles, comme le bleuet, la nielle des champs, voilà. Toutes celles qui étaient très simples, appelées messicoles ou adventices des moissons. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'elles gênaient
Parce qu'elles gênaient, parce que ça prenait
elle levait avant.
Elle levait avant, et puis bon, c'était la moisson était moins pure, hein, puisqu'il y avait des graines de mauvaises herbes.
Oui. C'est l'occasion aussi, un jardin de curé, d'apprivoiser ce que vous appelez, celles que vous appelez les sauvageonnes.
Oui. Alors là, il y aurait beaucoup à dire, hein. Il y a tout un mouvement d'ailleurs qui prend de l'ampleur sur les plantes qui sont bien, qui sont du cru, hein. D'ailleurs, il y a une technique toute simple d'observation qui permet, en fonction de la végétation naturelle d'un lieu, on peut déduire quelle est la nature du sol et plein de choses très très intéressantes. Donc ces plantes-là, il y en a ma foi qui sont magnifiques et qui méritent tout à fait leur place dans les plates-bandes. Mmh. Hein, donc souvent on récolte les graines ou bien on peut trouver sur un talus une variété à fleur double de saponaire qui est magnifique, ça pousse tout seul, et bien on en met un bout dans son jardin.
Oui.
Et on est garanti d'avoir une plante pendant 10 ans.
En veillant quand même à ce qu'elle ne soit pas trop envahissante alors.
Alors après, oui, c'est toujours l'observation va nous permettre de... Parce qu'une petite plante qui est un peu chichiteuse ou dans la campagne, si vous la mettez dans une bonne terre, elle peut se révéler un peu plus vigoureuse, c'est sûr.
Et avec une belle propension à coloniser le terrain, dites-vous. Et les mauvaises herbes du jardin, regardez jadis d'un
œil... Il n'y a pas de mauvaises herbes.
Il n'y a pas, c'est ça.
Il n'y a que des plantes qui ne sont pas mises au bon endroit. Les mauvaises herbes, c'est formidable. Il y en a qui se mangent, on peut en faire du purin pour doper les autres, il n'y a pas de mauvaises herbes.
Les jardins à fleurs de peau, qu'est-ce que c'est?
C'était un petit jeu de mots pour dire que nos grands-mères, elles aimaient beaucoup cultiver les choses en pot, hein, les gros bégonias plantureux que l'on cultive à partir de bulbes, les fuchsias,
les liotropes,
le réséda, une plante formidable qui a été complètement abandonnée avec un parfum très délicat. Voilà.
Les pensées, les violettes.
Et elles se passaient du temps tous les jours amoureusement à bichonner leurs potées fleuries et ça faisait partie de leur rituel quotidien.
Tout dialogue finalement, Claudie Mangold, dans un jardin de curé, à la fois ces choses très simples, très, très désuètes et qui sont d'un usage courant, celles qui sont là simplement pour égayer les sens et surtout la vue. Les feuillages, qui sont un écrin aussi pour toutes ces couleurs.
Bien sûr. Les feuillages, comme par exemple la ruta, on trouvait beaucoup de ruta, ce feuillage bleuté qui est un peu comme de la dentelle, on trouvait beaucoup ça dans les jardins. Mais aujourd'hui, on ne prête pas attention au feuillage, et je trouve ça vraiment très très dommage, parce qu'il y a des formes, des textures, et même des parfums dans les feuillages. Hein. On peut reconnaître tout au fond d'un jardin la présence, rien qu'au parfum, la présence d'un arbre ou d'une plante, donc et qui n'a pas de fleurs.
Oui, oui.
Donc,
quelle différence nous demande un auditeur avec une autre idée du zen? C'est le jardin japonais. On parle pas du jardin sec, hein, bien sûr.
Alors le jardin japonais, c'est encore totalement autre chose, c'est un peu la reconstitution de la magnificence de la nature dans ce qu'elle a de plus, pas intellectuel, mais si vous voulez, c'est presque du développement personnel. Hein.
Oui.
C'est un peu comme le...
Il faut dire que c'est le jardin japonais est prévu pour recréer un paysage, comme vous le disiez, mais en mariant tous les éléments, le minéral, le végétal...
Et avec une épure totale.
Une maîtrise.
Oui.
Une très grande maîtrise.
Oui. Et certaines plantes vont figurer les montagnes, d'autres, les rivières qui serpentent. Si l'on veut d'ailleurs, et ça vous ne me contredirez pas, je pense pour les Parisiens ou de proches banlieues, si l'on veut voir et découvrir la différence entre un jardin japonais, puisque les uns sont situés à quelques bruits desquels je parlais, les jardins Albert Kahn à Boulogne-Billancourt, où on peut découvrir justement la culture en espalier de ces arbres fruitiers, la forêt vosgienne, le jardin japonais.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un très bon exemple d'arbre du jardin.
Revenons, oui, pardon, vous vouliez réagir.
C'est un très bon exemple d'art des jardins à portée de la capitale.
Redisons un tout petit mot de la santé à portée de main, puisque c'est aussi à ça que servent les jardins de curé, du bon usage de l'hysope, de l'arnica, du basilic.
Voilà, c'était des remèdes de grand-mère, hein, mais qui était qui se transmettait de génération en génération, hein. Et donc on avait à cœur à se passer ces simples, ces plantes médicinales, justement pour l'arnica, on appelait ça, enfin dans ma région natale en Vendée, on appelait ça du contre-coup, hein, donc ça servait à éliminer les bleus. Il y a plein de choses, et alors il y a plein d'histoires croquignolettes qui tournent autour de ces plantes.
Que l'on découvrira d'ailleurs, pardon.
J'ai un petit peu de temps, je vous parle rapidement de la menthe coque. La menthe coque, qui est une plante de la famille des marguerites, qui a un feuillage assez allongé. Et quand vous le froissez, vous avez l'impression de sentir la chlorophylle, vous savez, des chewing-gums à la chlorophylle. Eh bien, cette plante a été exportée par les colons, surtout les colons germaniques aux États-Unis. Et on la retrouve dans les micelles. Pourquoi ? Parce que cette plante sentait tellement fort, même séchés, que les colons les mettaient dans leur micelle au cas où ils auraient un petit assoupissement. Ils reniflaient cette feuille dans leur micelle pour se réveiller.
Je vérifie si le vôtre sent quelque chose, non, pas besoin.
Non, on aurait bien voulu,
non. On ne risque pas de s'endormir devant tant de merveilles et de recommandations, de conseils, y compris pour les gourmands, avec tous les petits fruits, les fraises, les groseilliers, les framboisiers, la vigne bien sûr, les légumes oubliés, les plantes, les fleurs et comment composer les plus beaux massifs. Donc c'est à découvrir dans ce magnifique ouvrage, le vôtre, Jardin de curé, jardin d'antan, paru chez Flammarion. Un dernier petit conseil peut-être à nos auditeurs à l'approche de l'hiver et puis pour bien profiter des vacances, pour se composer ce jardin secret, Claudie Mangold.
Je pense qu'à chaque moment de la journée et à chaque jour de l'année, il y a une beauté au jardin. Il y a de quoi vibrer, il y a de quoi se faire plaisir et aussi de travailler le corps. Mais déjà, rien qu'en observant, en écoutant, en froissant, en sentant, il y a un éveil des sens qui est fabuleux à chaque jour de l'année.
Philippe Perret.
C'est ce que j'allais dire, hein. Le jardin de curé, le jardin d'antan. Le jardin, c'est une ode à la vie.
Une ode à la vie, voilà. C'est sur ces mots que l'on terminera cette émission. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre ouvrage. Jardin de curé, jardin d'antan, Claudie Mangold, Philippe Perret, publié chez Flammarion. Hors-titre et d'unionculture.com, c'est votre blog, Philippe Perret. Et www.coach-vie.eu, c'est le vôtre, Claudie Mangold. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. Merci et bon jardinage.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
Parole d'évêque. Tous les jours, un évêque différent répond aux questions de la rédaction de Radio Notre-Dame à 10h03 et 20h28. Actualité, vie de l'Église, la vie du diocèse décryptée par un évêque d'Île-de-France. Parole d'évêque, c'est tous les jours à 10h03 et 20h28 sur Radio Notre-Dame.
Vous ne voulez plus cuisiner? Vous suivez un régime alimentaire? Ou vous avez simplement envie de repas savoureux et équilibrés?
Saveur et Vie livre à domicile vos repas personnalisés au 0811 900